Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris et ensemble on parle comics et culture populaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir sur mes tout premiers comics et sur mes premiers pas dans l'univers de la bande dessinée américaine et des super-héros. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses, comment j'ai découvert les comics. D'abord, il faut se remettre dans le contexte. Je vous parle d'un monde où être privé d'internet n'est ni une punition, ni l'œuvre d'un technicien fibre peu consciencieux, mais bel et bien une normalité. J'ai grandi dans un monde sans internet jusqu'à l'adolescence, et donc à l'époque, c'était pas toujours évident de se renseigner sur ce qui nous plaisait, encore plus quand, comme moi, on vivait dans un petit village normand de même pas 150 habitants. Et je vais sûrement avoir l'occasion d'approfondir ce point, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis plongé dans l'univers des comics et des super-héros, parce que tout ce que j'ai lu au départ me semblait hyper lacunaire, et donc pour avoir des réponses à mes questions, j'avais pas d'autre choix que de lire toujours plus de comics. Ma découverte des comics passe d'abord par la découverte des super-héros, sans forcément savoir que c'était à la base des personnages de bande dessinée. Comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, mon premier contact avec les super-héros se fait d'abord par les adaptations au ciné et à la télé. Évidemment, parmi mes premières découvertes, il y a deux des plus gros phénomènes de société de la fin des années 1980 et du début des années 1990, les films Batman de Tim Burton et la série animée Tortue Ninja. À cette époque, on est en pleine Batmania et en pleine Turtlemania, et comme pratiquement tous les gamins de ma génération, j'y échappe pas. Mais moi, à ce moment-là, je dois avoir 4 ou 5 ans, et de toute évidence, j'accroche plus à des franchises calibrées pour plaire aux gosses, et j'imagine clairement pas tout l'univers étendu qu'il peut y avoir derrière sur le papier. Pour être très franc, je crois que j'ai découvert que les Tortues Ninja étaient des personnages de comics à l'origine que bien plus tard, je pense au tout début de l'adolescence, soit des années après avoir commencé à lire des comics sérieusement, si je puis dire. Tout comme j'ai vu tous les films Batman des années 90 et la série animée avant d'avoir lu le moindre comic book de Batman. En fait, globalement, à l'époque, j'ai conscience qu'il y a tout un truc derrière les films, les dessins animés, les jouets et les brouettes de produits dérivés qu'on trouve un peu partout, mais je n'ai pas encore été exposé aux matériaux d'origine. Dans mes autres souvenirs liés aux super-héros, il y a le jeu Spider-Man sur Master System, qui compte vraiment parmi les tout premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué sur une console de salon. On est en 1992-1993 à tout casser, une période où les jeux vidéo sont quand même encore loin d'être une pratique autant démocratisée qu'aujourd'hui. Encore une fois, j'ai donc conscience assez tôt du fait que Spider-Man est bien plus qu'un personnage de jeu vidéo, mais pour autant, je vois plus ça comme une licence multi-support, même si c'est clairement pas le mot que j'aurais utilisé à l'époque, que comme une adaptation tirée d'une série de comics. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu modeste, voire même très modeste, mais dans lequel on ne m'a jamais interdit l'accès à quoi que ce soit sur le plan culturel, et où on m'a même largement encouragé à découvrir des films, des livres, des séries ou des jeux vidéo. Du coup, j'ai l'impression d'avoir toujours eu des bouquins entre les mains, et ça, même bien avant de savoir lire. Et c'est comme ça que je vais ouvrir mes premiers comics finalement. Pour avoir creusé dans ma mémoire à maintes reprises, je crois aujourd'hui que l'un de mes tout premiers comics, c'est un numéro de Super Conan, publié par Mon Journal, que j'avais dégoté je ne sais pas trop comment, potentiellement dans une espèce de pochette à pas cher dans laquelle il y avait toutes sortes de bouquins en vrac. Moi, à ce moment-là, je suis absolument dingue des films avec Schwarzenegger, Terminator, Commando, Predator et bien évidemment Conan le Barbare. Alors oui, ça va sûrement faire bondir des parents de savoir que j'avais déjà vu tous ces films à 5 ans, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, toutes ces licences comme Alien, Robocop ou Rambo, qui à la base ne sont clairement pas faites pour les enfants en bas âge, avaient tout droit à des dessins animés et à des jouets, et que ça ne choquait pas grand monde que les gamins puissent voir ces films. Bref, me voilà tout content avec mon Super Conan, alors que rappelons-le, je ne sais pas lire, et évidemment, je ne me rends absolument pas compte que c'est l'adaptation par Marvel des aventures d'un héros de Pulps qui ont été écrites par Robert E. Howard 60 ans plus tôt. Pour moi, Conan le Barbare, c'est un film avec Schwarzenegger, et ce n'est que pratiquement 15 ou 20 ans après que je vais lire les nouvelles originales qui mettent en scène Conan. Un peu plus tôt, je vous parlais des Tortues Ninja, et c'est plus ou moins au même moment que je me retrouve en possession de deux tomes de bande dessinée avec les fameux Chevaliers d'Écailles, édités en France par Comics USA. En fait, il s'agit du comic book adapté de la série animée, publié par Archie Comics aux États-Unis et qui sort en album cartonné chez nous. Encore une fois, je pense qu'à ce moment-là, je déchiffre tout juste l'alphabet, donc je regarde principalement les images, mais j'ai toujours ces deux tomes et j'ai même complété ma collection depuis, et comme entre-temps j'ai aussi appris à lire, eh ben j'ai fini par les lire pour me rendre compte que je ne comprenais pas beaucoup plus leur contenu que quand j'avais 4 ans, donc bon, expérience peu concluante finalement. On va, enfin diront certains, rentrer dans le vif du sujet, puisque grâce à un bond de quelques années en avant dans le temps, on arrive aux alentours de mon 7e anniversaire. Là, j'ai enfin appris à lire, et donc c'est le drame, on me ramène des albums reliés de Strange, Strange Special Origin et Titan. Et là, eh ben, c'est le gros mindfuck, puisque je découvre d'un coup d'un seul des dizaines de personnages dont j'ignorais tout jusqu'alors, et évidemment, j'ai un peu de mal à comprendre ne serait-ce qu'un dixième de ce que je lis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas avec 2-3 épisodes des New Mutants, d'Excalibur ou des Vengeurs de la Côte Ouest pris au hasard que le néophyte total que j'étais allait apprendre grand-chose. Je me souviens avoir lu les origines d'Iron Man et du Silver Surfer dans mes Strange Special Origins, et ça, mine de rien, eh ben, c'était déjà une porte d'entrée un peu plus acceptable. Et puis dans le lot, il y avait aussi les numéros 299, 300 et 301 de Strange, une revue mythique pour pas mal de vieux lecteurs de comics, avec de chouettes posters de mémoire, dans lesquels il y avait du Spider-Man, du Namor, du Iron Man et du Avengers. Et là aussi, pareil, je tombe là-dedans la tête la première et sans filet, et je dois assimiler une quantité d'informations absolument énorme. Par exemple, ok, j'ai lu la toute première aventure d'Iron Man, parue dans Tales of Suspense 39, dans Strange Special Origin 292, mais qu'est-ce qui s'est passé entre cette histoire qui date de 1963 et l'épisode publié dans le 300e numéro de Strange ? Eh ben, j'en sais rien du tout, et je le répète, à l'époque, j'ai absolument aucun moyen immédiat, ou même à court terme, de le savoir. Et bizarrement, eh ben je m'en fous un peu, parce que même si j'y pige rien, je trouve ça super cool. Le contexte global a son importance, parce qu'on doit être en 1995 ou 1996 à peu près, et donc ça correspond à l'arrivée sur Canal+, des cartoons X-Men, Fantastic Four, Iron Man ou encore Wildcats, et aussi à la diffusion de la série animée Spider-Man sur TF1. En gros, si on ajoute à ça la sortie de Batman Forever au ciné la même année, il y a quand même un petit engouement pour la thématique super-héroïque. En plus, c'est les 90s, donc autant vous dire que tout ça s'accompagne d'opérations promotionnelles et de produits dérivés à gogo, dans les paquets de céréales, dans les magasins de jouets, sur les consoles de jeux vidéo, etc. etc. Je me souviens notamment des Pogs Spider-Man dans les paquets de BN, et oui, désolé si vous avez connu ça, vous venez de prendre un gros coup de vieux. Bon, Super Conan, Strange, c'est vraiment mes tout premiers contacts avec la bande dessinée américaine, mais après ça, je vais rapidement devenir un lecteur régulier. Et ce passage de statut de gamin qui découvre ponctuellement des personnages sans vraiment réussir à recoller les morceaux à celui de consommateur régulier qui va acheter ses comics tous les mois, il correspond plus ou moins au moment où Semic, qui avait déjà repris la suite de Lug, perd les licences Marvel au profit de Panini, et donc à l'arrivée de Marvel France, qui va devenir plus tard Panini Comics. Alors au début je tâtonne pas mal, ce qui fait qu'entre 1997 et 1999, donc sur la fin de mes années d'école primaire et sur ma première année de collège, j'achète un peu des trucs au hasard, et je commence tout juste à suivre quelques séries, notamment Wolverine. Je lis aussi quelques morceaux des mini-séries Venom des 90s, mais encore une fois, c'est très décousu. Puis je me mets à lire le magazine Marvel, qui ratisse très large dans son sommaire, avec beaucoup de one-shot. Là encore, je me prends pas mal de choses dans la gueule sans rien comprendre. Et puis après ça, on arrive au plein moment de la transition entre Heroes Reborn et Heroes Return, donc une période à la fois très chaotique et plutôt idéale pour débuter, puisque beaucoup de séries Marvel repartent sur de nouvelles bases avec pas mal de contextes expliqués aux nouveaux lecteurs. Même si vous imaginez sans doute le truc absolument imbitable que représente le crossover Onslaught pour un jeune lecteur. Vous le constatez, il y a surtout du Marvel, parce qu'à l'époque, trouver du DC en kiosque, eh ben c'est pas évident. Semic a récupéré les droits, mais les nouvelles moutures de Strange, Titan et Nova, avec du DC et du Image Comics au sommaire, n'ont pas trouvé leur public. Et donc on est en plein creux de la vague pour les héros et les héroïnes de la distinguée concurrence. Et puis, au départ, à titre personnel, il est fort possible que les personnages de Marvel m'aient un peu plus attiré parce que j'en connaissais déjà certains, notamment grâce aux dessins animés X-Men ou Spider-Man par exemple. Alors que d'ici, à part Batman, ça me semblait sûrement moins familier, mais je vais largement me rattraper par la suite. Mes lectures incluent les comics eux-mêmes, évidemment, mais aussi le peu de publications qui traitent de comics à l'époque, et que j'arrive à trouver dans ma campagne. Donc je découvre Comic Box, avec le 6ème numéro, qui sort toute fin 98 je crois, et je vais suivre le magazine vraiment tout au long de son existence. Comic Box, c'est un périodique absolument historique pour pas mal de monde je pense. J'arrive aussi à mettre la main sur quelques fanzines ou publications autoproduites que je déniche par-ci par-là, mais dites-vous bien que si aujourd'hui vous avez l'impression d'évoluer dans un milieu de niche, ultra confidentiel et où il est assez dur de partager votre passion avec des gens, et bah c'est quand même forcément plus facile que ça ne l'était de mon point de vue de gamin de 10 ans au fin fond de la Normandie. En parallèle des comics, je lis beaucoup en général, notamment la série des Chairs de Poule et aussi Picsou Magazine, auquel j'ai été abonné très longtemps. On l'oublie souvent, mais Picsou Magazine ou le journal de Mickey, eh ben c'est aussi de la bande dessinée américaine. Alors, tout le contenu n'est pas produit aux États-Unis, il y a entre autres pas mal d'auteurs italiens qui ont bossé sur les personnages de Disney, mais ça reste quand même du comic book, avec lequel énormément de gens ont eu contact sans savoir que c'était du comic book. Je ne peux pas parler de Picsou sans évoquer La jeunesse de Picsou de Don Rosa, évidemment, un récit culte pour énormément de lecteurs et de lectrices. Même si je mets ça dans une case un peu à part de la bande dessinée de super-héros, c'est une histoire qui m'a marqué quand j'étais gamin. Déjà parce qu'elle donne énormément de contexte à un héros que je connaissais surtout via le dessin animé La bande à Picsou, et puis aussi parce que c'est une magnifique démonstration de comment on peut proposer une histoire profonde, sérieuse et touchante avec des canards anthropomorphes comme principaux protagonistes. Ce qui est aussi intelligent qu'inattendu en fait. Je lis aussi beaucoup de BD franco-belges dans ces années-là, le journal de Spirou, Cédric, Kid Paddle, qui sont deux séries que j'aime beaucoup même si elles sont un peu dans leur jus aujourd'hui, et surtout Gaston Lagaffe, dont je suis absolument fou à l'époque. D'ailleurs, je crois que la silhouette de Gaston, je peux encore la dessiner les yeux fermés, tellement je l'ai fait et refait quand j'étais en primaire. Et puis évidemment, il y a Dragon Ball, qui pour moi, comme pour beaucoup de personnes, a été la porte d'entrée à l'univers du manga et même à la culture japonaise, rien qu'en m'intéressant à la signification des noms des personnages. Ma passion pour Dragon Ball, elle mériterait un épisode tout entier, mais je ne pouvais pas ne pas mentionner ce manga culte d'Akira Toriyama qui nous a quittés très récemment, tout simplement parce qu'il a vraiment participé à la construction de mon imaginaire, et ça pendant de très longues années. Pour en revenir aux comics, après ces premières années placées sous le signe de la découverte, je vais finalement me plonger dans les séries de Image Comics. Spawn en premier lieu, qui est l'une des séries que je vais suivre le plus longtemps sans interruption dans ma vie, jusqu'à la fac, mais aussi Youngblood, Stormwatch, Cyberforce, et j'en passe. Mais on va quand même en garder pour plus tard, les comics de mon adolescence, donc de ma période collège-lycée, ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Si j'ai tenu à raconter tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit passer énormément de guides pour débuter les comics. Les éditeurs proposent des formats plus ou moins abordables en termes de prix, et plus ou moins accessibles en ce qui concerne le contenu, et ce sont de très bonnes choses, qui doivent sûrement beaucoup aider les gens qui veulent se mettre aux comics. Mais comme je le disais en début d'épisode, quand on veut se lancer dans la bande dessinée américaine de super-héros, et plus particulièrement celle des Big Two que sont DC et Marvel, eh ben je crois qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas avoir toutes les clés dès le départ, et que ça participe aussi au charme et à l'attrait du médium. Parce que découvrir cet univers progressivement, de façon très parcellaire et avec une vision extrêmement lacunaire de l'ensemble, et bah une fois encore, ça entretient une forme de curiosité. Et sans vouloir parler comme un vieux con, le fait qu'actuellement on puisse savoir tout et tout de suite sur absolument tous les sujets, sans forcément avoir besoin d'être patient ou d'approfondir par soi-même, ça a aussi un peu tendance à désamorcer rapidement la curiosité naissante qu'on peut avoir pour une thématique. Le meilleur exemple, c'est la promotion à outrance de certains films, dont absolument tout le contenu nous est révélé dans de nombreux trailers avant la sortie au cinéma. Si bien qu'on finit par se demander si c'est bien utile d'aller le voir, puisqu'on n'a plus rien à découvrir. Bref, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre dès le début, et de considérer que chaque chose qui vous manque au départ aura un petit goût de récompense quand vous finirez par assembler les différentes pièces du puzzle au fil de vos lectures. Et puis, essayez aussi d'intéresser vos proches, vos enfants, vos potes, le plus tôt possible à la lecture, parce que je pense aussi que plus la découverte est tardive, plus l'effort demandé a tendance à nous décourager. Alors que dans mon cas, quand j'étais gamin, le divertissement primait sur la complexité de ce qui m'était présenté, et ce n'est souvent que bien plus tard que j'ai capté toutes les subtilités de certaines œuvres. Voilà, j'espère que ce petit flashback vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous. Moi je vous donne rendez-vous sur Substack, j'y ai publié récemment tout un cycle d'articles consacrés aux X-Men dans les années 1990. Et évidemment, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.